Véroa Afrique.
Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. À ce micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition du mardi 20 juin 2023. Il est 18h30 temps universel. Voici le sommaire. Ici aux États-Unis, Hunter Biden, fils du président américain, plaide coupable de fraude fiscale et détention illégale d'armes à feu. Le procès de l'ancien président Donald Trump débute le 14 août selon une ordonnance du tribunal de Floride. Il est inculpé pour sa gestion de documents confidentiels après sa présidence. Il a plaidé non coupable. C'est la journée mondiale des réfugiés. Au Soudan, le HCR fait état de plus de 500 000 réfugiés et 2,5 millions de déplacés internes. Au Mali, les autorités de transition portent plainte contre la mission de l'ONU, accusée d'espionnage. À suivre aussi la minute économique et les sports. Mais pour commencer, le journal. Commençons par l'actualité américaine. Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden, a reconnu sa culpabilité dans deux affaires fédérales le concernant, une affaire de fraude fiscale et une autre relative à la détention illégale d'armes à feu. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi le procureur en charge du dossier, Claire Morin-Gibourg.
Hunter Biden a plaidé coupable dans une affaire de fraude à l'impôt fédéral sur le revenu, détaille le procureur David Weiss, qui était chargé de l'enquête depuis plus de 5 ans. Âgé de 53 ans, le fils de Biden va par ailleurs passer un accord sur une affaire de violation de la loi sur les armes à feu, ce qui équivaut à une reconnaissance de culpabilité. Il lui est reproché d'avoir acquis une arme à feu en 2018 alors qu'il était toxicomane. Le fils cadet du président américain a décrit sans fard ses problèmes de dépendance au crack dans un livre paru au printemps 2021. Ancien avocat et homme d'affaires devenu artiste, il assure être désormais sevré de l'alcool comme de la drogue. L'opposition républicaine lui reproche d'avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine alors que son père était vice-président. « Mon fils n'a rien fait de mal », avait-il dit dans une interview en mai dernier à la chaîne MSNBC. « J'ai confiance en lui », avait ajouté le président américain.
Une autre affaire judiciaire ici aux États-Unis, la juge supervisant le procès de l'ancien président Donald Trump a fixé ce mardi la première audience au 14 août. Candidat à la présidentielle de 2024, M. Trump est accusé d'avoir mis en péril la sécurité des États-Unis en conservant des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Il a plaidé non coupable des charges à son encontre. Par ailleurs, il a déjà été inculpé par la justice de l'État de New York pour plusieurs fraudes comptables en lien avec un paiement réalisé avant la présidentielle de 2016 pour faire taire une actrice de film X. Ce procès pénal doit être organisé début 2024. En outre, une procureure de Géorgie doit annoncer d'ici septembre le résultat de son enquête sur les pressions qu'il a exercées pour tenter de changer le résultat de la présidentielle de 2020. Le premier ministre indien Narendra Modi débute ce mardi une visite aux États-Unis. Il doit rencontrer le président américain Joe Biden au moment où Washington cherche à contrer l'influence de la Chine. Anita Talani.
Narendra Modi sera reçu jeudi à la Maison-Blanche pour un dîner d'État avec le président Joe Biden. Le dirigeant de l'État le plus peuplé au monde va s'adresser aussi au Congrès américain. Il devrait rencontrer le secrétaire d'État Anthony Blinken de retour d'une visite en Chine, ainsi que des chefs d'entreprise américains dans l'espoir de les convaincre d'investir en Inde. Pour New Delhi, la visite de M. Modi est une occasion historique d'étendre et de consolider les liens indo-américains. Washington espère renforcer ses liens commerciaux, technologiques et militaires avec l'Inde, un allié potentiel en Asie pour contrer l'influence régionale de la Chine. Début juin, les États-Unis et l'Inde se sont mis d'accord sur une nouvelle feuille de route de coopération militaro-industrielle à l'occasion d'une visite à New Delhi du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Ce rapprochement intervient au moment où l'Inde cherche à mettre fin à sa dépendance avec Moscou sur le plan militaire, à la fois en élargissant ses sources d'importation d'armes et en augmentant sa production nationale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. En plein conflit au Soudan, le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi, a déclaré ce mardi que plus de 500 000 personnes ont fui à l'étranger et les combats y ont fait 2 millions de déplacés internes. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Si nous ne faisons pas taire les armes, l'exode du peuple soudanais se poursuivra, a averti le responsable de l'ONU lors d'une conférence de presse à Nairobi. Philippe Grandi s'exprimait à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, un jour après une conférence de donateurs organisée par l'ONU qui a permis de récolter près d'1,5 milliard de dollars pour lutter contre la crise humanitaire au Soudan et aider les pays voisins à accueillir ceux qui fuient le combat. La communauté internationale a promis lundi quelque 1,5 milliard de dollars pour venir en aide au Soudan en guerre qui, selon le patron de l'ONU, Antonio Guterres, sombre dans la destruction et la violence à une vitesse sans précédent. Depuis le déclenchement le 15 avril du conflit au Soudan, plus de 2000 personnes sont mortes selon l'ONG ACLED.
Le président sénégalais Macky Sall s'est engagé ce mardi à consolider la démocratie dans son pays lors d'une visite d'État au Portugal. Sa première réaction publique aux troubles qui ont secoué son pays début juin. Nous poursuivrons notre marche vers l'émergence économique et la consolidation de la démocratie et de la liberté au Sénégal. Dans le respect bien sûr de l'État de droit, je veillerai à ce que le Sénégal reste dans les standards démocratiques les plus importants, a-t-il assuré dans une déclaration à la presse après une rencontre avec le président portugais. Marcelo Rebelo de Sousa. Nous avons un profil économique devenu très attractif. Nous allons commencer à partir de cette année l'exploitation du pétrole et du gaz. Cela peut aussi expliquer toute cette frénésie, a ajouté Macky Sall, qui ne s'est pas encore prononcé sur sa volonté, la volonté qu'on lui prête, de briguer un troisième mandat en 2024. Au Nigeria, au moins 20 personnes ont été tuées depuis dimanche dans le centre du pays au terme de nouveaux affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Ce drame survient au moment où l'État de Plateau a connu une forte résurgence de conflits meurtriers ces dernières semaines entre les communautés qui se disputent l'accès à l'eau et à la terre. Alexandrine Olognon.
La dernière attaque a été menée par une présumée milice d'éleveurs qui a envahi plusieurs villages du district de Barkin-Ladi, selon la police de l'État du Plateau. Vendredi déjà, 5 éleveurs ont été tués. Par la suite, 8 agriculteurs ont été abattus, selon un chef de la communauté Béroum. Depuis mi-mai, au moins 140 personnes ont été tuées dans ces violences et plus de 3000 personnes ont fui. L'État du Plateau est souvent le théâtre de tensions intercommunautaires et d'attaques à répétition entre des éleveurs peuls et des agriculteurs, en particulier dans les districts de Mangou, Barkin-Ladi et Riom. Les tensions se sont aggravées ces dernières années par la pression démographique et le changement climatique. L'enchaînement de meurtres et représailles a donné naissance dans la région à une criminalité plus large, avec des bandes qui mènent des expéditions ciblées dans des villages où ils tuent des habitants, pillent et procèdent à des enlèvements contre rançon.
Au Mali, la justice est saisie d'une action engagée par les autorités de la transition contre la MINUSMA, mission de l'ONU dans le pays. La MINUSMA est accusée d'espionnage après la publication d'un rapport accablant pour l'armée nationale, selon un communiqué du parquet national. Rosine Mounezero.
Le procureur du pôle spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité a été saisi d'une plainte de l'État contre la MINUSMA qui a enquêté sur les événements survenus à Moura, dans le centre du pays, entre le 27 et 31 mars 2022, dit le communiqué du procureur. Ses membres sont présentés comme tous co-auteurs ou complices du chef des crimes, d'espionnage, d'atteinte au moral des armées, de faux et usage de faux et d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Cette plainte fait suite à la publication le 12 mai d'un rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui accuse l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté au moins 500 personnes à Moura. La publication de ce rapport a exacerbé les tensions entre la MINUSMA et la junte qui vient de demander le retrait de la mission onusienne. Les États-Unis disent regretter cette demande de retrait sans délai de la MINUSMA, a affirmé Matthew Miller, porte-parole du département d'État, réclamant un départ ordonné et responsable des casques bleus.
La France a demandé ce mardi à ce que cesse le soutien militaire continu du Rwanda aux rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. La France est préoccupée par les informations confirmant le maintien du M23 dans les territoires à l'est de la RDC, le soutien militaire continu du Rwanda à ce groupe armé et la présence de soldats rwandais sur le territoire congolais. Ce soutien que nous condamnons doit cesser, selon une déclaration du ministère français des Affaires étrangères. Et puis les États-Unis ont imposé pour la première fois des sanctions économiques pour des violences sexuelles liées à un conflit à l'encontre de deux responsables du Soudan du Sud, a annoncé ce mardi le département du Trésor. Les deux personnes visées par ces sanctions sont James Nando, un responsable militaire du Soudan du Sud, et Alfred Futuyo, un responsable politique de ce pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, la Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Accra vise à exempter de la restructuration de dette les prêts d'Afrexébank qui lui a prêté 750 millions de dollars, a déclaré le ministre des Finances Ken Ofori Atta. Afrexébank estime qu'elle devrait être classée comme un prêteur multilatéral au développement dont les prêts ne sont généralement pas soumis à des dépréciations dans de tels cas. Le Ghana, qui a fait défaut de paiement sur la plupart de ses dettes extérieures, veut réduire les remboursements des dites dettes au cours des 3 ans à venir pour se qualifier pour la prochaine tranche d'un accord de prêt de 3 milliards de dollars du FMI. Le Soudan du Sud prévoit de dépenser 2100 milliards de livres sud-soudanaises au cours de l'exercice budgétaire 2023-2024 qui commence le mois prochain. C'est 33% de plus qu'en 2022-2023 pour stimuler la reprise économique grâce à des mesures de réforme budgétaire, monétaire et structurelle viables, a déclaré ce mardi le ministre des Finances. Selon lui, pour financer le budget, environ 1,8 milliard de livres sud-soudanaises seront levés sur le marché intérieur, notamment à partir des revenus pétroliers, et le reste des fonds sera généré par des emprunts. Pour terminer, au Maroc, pour compenser les problèmes d'approvisionnement, l'entreprise publique, l'OCP, a conclu un accord pour acheter de l'ammoniac d'Amérique du Nord cette année, a déclaré l'entreprise à Reuters. À plus long terme, elle envisage de renforcer sa chaîne d'approvisionnement domestique, notamment en construisant une usine à Tarfaya, dans le sud du Maroc.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonsoir Mohamedou.
Jeux Olympiques 2024 à Paris, des perquisitions sont en cours sur plusieurs sites, dont le comité d'organisation.
Des perquisitions ont eu lieu ce mardi matin sur plusieurs sites, notamment au siège du comité d'organisation Chojo des Jeux 2024 de Paris et à la société de livraison des ouvrages olympiques Solideo, a indiqué le parquet national financier PNF. Le ministère public a précisé que ces perquisitions étaient réalisées dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires ouvertes respectivement en 2017 et 2022 sur des soupçons de prise illégale d'intérêts et de favoritisme.
En Angleterre, Chelsea officialise le recrutement du Français Christopher Nkunku.
Le club anglais de Chelsea a officialisé ce mardi le recrutement de l'international français Christopher Nkunku, 25 ans, en provenance de Leipzig, avec un contrat portant sur 6 saisons à compter du 1er juillet. Le montant du transfert non dévoilé a été estimé à près de 60 millions d'euros par la presse spécialisée. Nkunku, capable de jouer au meneur de jeu ou deuxième attaquant, sort de 2 saisons extrêmement abouties avec Leipzig, qu'il avait rejoint en 2019. Il a marqué 35 buts, toutes compétitions confondues, en 2021-2022, puis 23 durant l'exercice 2022-2023.
Euro Espoir, un trône et 3 places à prendre pour Paris 2024.
L'Euro Espoir co-organisé par la Géorgie et la Roumanie débute demain mercredi pour 16 nations qui se disputent jusqu'au 8 juillet. Le titre continental est surtout les 3 places qualificatives attribuées par l'UEFA pour le tournoi olympique de Paris 2024. La CELESAO Espoir finaliste en 2021 donnera le coup d'envoi face à l'hôte géorgien demain après-midi à Tbilissi et aimerait être toujours en Géorgie au soir du 8 juillet pour mettre un point final à son aventure.
Le gendarme Daniel Nivelle, invité pour le match Allemagne-France, 25 ans après son agression.
Le gendarme Daniel Nivelle, grièvement blessé par des hooligans allemands il y a 25 ans lors de la Coupe du Monde en France, assistera le 12 septembre à la rencontre entre l'Allemagne et la France à Dortmund, a annoncé ce mardi la fédération allemande. Le gendarme français avait été agressé par un groupe de hooligans allemands le 21 juin 1998 à Lens, avant le match de Coupe du Monde entre l'Allemagne et la Yougoslavie. Il était resté 6 semaines dans le coma. Il est depuis hémiplégique, a perdu l'odorat et le goût et est aveugle d'un œil.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Ce mardi 20 juin est la journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, nous donnons la parole à un réfugié établi au Tchad après avoir fui les violences intercommunautaires au Cameroun. Il décrit les conditions de vie difficiles dans le camp de Guilmé et lance un appel au HCR. On l'écoute.
Je m'appelle Mamata Bakar. Je suis réfugié ici au camp de Guilmé, venant du Cameroun. Je suis dans ce camp parce que j'ai fui la guerre intercommunautaire depuis le Cameroun pour ici. Donc c'est un conflit qui a eu lieu entre deux communautés, une arabe et de l'autre côté musulmane. Ici, l'accueil, je peux dire que c'est une accueil chaleureuse parce que au moment où nous étions venus au fleuve, donc on a constaté que tous les membres du gouvernement, y compris ceux de la CRT et la CNAR également étaient présents. Ils nous ont accueillis. L'accueil était chaleureux pour moi. En ce qui me concerne, je suis venu seul parce que au moment où j'ai fui, la guerre a commencé. J'ai laissé la famille. Donc, je n'avais pas eu de traces de ma famille. Donc, j'étais sorti. Eux aussi, ils avaient pris d'un côté. Ils étaient sortis. Ils étaient partis de l'autre côté. Moi également, j'étais sorti d'un côté et je me retrouve finalement ici à seul. Donc, ma famille est restée de l'autre côté. Bon, je me sens pour le moment, je me sens, sauf que ma famille me manque, mais je me sens mieux. J'ai prié déjà à Dieu parce que le HCR nous a gardé et la CNAR aussi veille également sur nous. Donc, sauf que on a beaucoup de manquements quand même. Bon, le quotidien, j'espère que ça va de temps en temps, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut aussi améliorer. Quoi. Dans ce camp, pour le moment, je ne pratique aucune activité, sauf que je travaille avec une ONG, ONG HIAS, qui est là. Donc, je travaille avec cette ONG en tant que point focal. Oui, c'est un travail, bon, pour ne pas dire qu'on ne gagne pas grand-chose, mais c'est juste pour ne pas s'asseoir comme ça et croiser les bras, on se bat quand même avec. Et on a beaucoup de difficultés ici dans ce camp. Dieu merci, au départ, le HCR a fait de son effort. Le PAM également a fait de son effort. On a eu des rations, mais sauf que les deux derniers mois, on a eu beaucoup de difficultés. On n'a pas eu de rations. Et actuellement, encore en ce zone de pluie, on a vraiment du mal. Je ne sais pas si vous pouvez constater un peu partout. Là, nous sommes inondés. Nous sommes inondés ici dans le camp. Donc, si c'est possible, nous voulons encore une aide. Quoi. Un mot pour la fin, je vais dire, si possible, le gouvernement tchadien, le HCR, y compris tous les ONG qui viennent de temps à autre ici au camp, ils peuvent constater les difficultés que les réfugiés sont ici. Donc je m'aimerais à ce que les choses puissent changer. Donc pour moi, il faudrait que d'abord le camp soit remblé, il faudrait qu'il y ait les canalisations pour que l'eau puisse couler normalement parce que nous sommes inondés carrément ici. Donc merci.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Au Rwanda, de nombreux réfugiés se réjouissent des projets d'aide et d'autofinancement dont ils bénéficient dans les camps. Ils souhaitent tout de même que les pays d'origine et la communauté internationale s'investissent davantage pour leur retour au Bekaï. De Kigali, le reportage de Jean Damascène Manishimwe.
Ils sont plus de 125 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda dans 5 camps à travers le pays. Plus de 59% d'entre eux sont des ressortissants de la République démocratique du Congo et plus de 40% des Burundais. Dans les camps, les réfugiés tentent d'améliorer leur bien-être avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés et du gouvernement rwandais. Ils ont initié des projets d'appui à l'autofinancement des réfugiés et ces derniers développent des activités génératrices de revenus.
Quand on cohabite avec quelqu'un, on partage les services de base comme l'alimentation en eau, les services éducatifs, les services sanitaires, les marchés, les routes. Vous vivez dans un même environnement. Nous avons initié ce projet pour alléger la pression des réfugiés sur la population locale.
Dans les camps de réfugiés, les enfants constituent une bonne partie des occupants. Ils ont une école et comme les nationaux, ils jouissent de programmes divers comme celui de l'alimentation scolaire.
La vie des enfants réfugiés dans les camps n'est pas du tout misérable. Ils vivent dans les mêmes conditions que les nationaux de notre école. Quand on distribue le matériel scolaire, on le fait de la même façon pour les Rwandais et pour les réfugiés.
Même si les réfugiés sont assistés par le HCR, le gouvernement rwandais et d'autres organismes, ils souhaitent tout de même que la communauté internationale se mobilise davantage et plaide pour le retour dans leur pays respectif.
Nous avons fui à cause de l'insécurité. Moi, j'ai fui en 2016 et je pense que rien n'a changé. Le Rwanda a vécu la même situation dans le passé, mais il est sécurisé aujourd'hui. Que notre pays, le Burundi, fasse de même, ainsi nous rentrerons.
Nous demandons à la communauté internationale de plaider pour nous, les démunis, afin de rentrer chez nous.
Même si le Haut Commissariat pour les réfugiés promet une assistance continue à ces réfugiés vivant au Rwanda, il déplore tout de même la persistance des handicaps au retour des réfugiés dans leur pays.
En fait, ce que nous souhaitons, c'est vraiment une solution durable pour la question des réfugiés. Et la solution durable, c'est le rapatriement des réfugiés dans leur pays, le rapatriement volontaire. Pour le Burundi, la situation s'est améliorée et les gens peuvent partir. Pour les réfugiés congolais, la plupart viennent de l'est de la République démocratique du Congo. Et une zone qui n'est pas encore totalement stable, dans cette condition, il sera difficile d'organiser un rapatriement.
À part plus de 125 000 réfugiés, le Rwanda abrite depuis septembre 2019 les migrants venus de Libye au terme d'un accord entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Union africaine et le gouvernement du Rwanda. Jusqu'à présent, plus de 1200 ont été accueillis et plus de 600 d'entre eux ont déjà trouvé des pays d'accueil. Jean Damascène Manichimwe pour VOA Afrique.
Washington Forum cette semaine avec Alexandrine Rolognon. De l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. C'est le thème retenu cette année pour la Journée mondiale du réfugié, une journée célébrée chaque 20 juin pour rendre hommage aux personnes qui ont été forcées de fuir leur milieu de vie. Selon les Nations Unies, à la fin de 2022, on compte plus de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Qu'est-ce qui est fait dans les différentes zones de conflit en Afrique pour aider les personnes déplacées à retrouver leur communauté d'origine? Rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum à 19h en temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a nommé lundi soir de nouveau chef de l'armée et de la sécurité, 3 semaines après son investiture à la tête du pays. Il a aussi nommé un ancien président de la commission des crises économiques, des crimes économiques et financiers, Nuhu Ribadu, comme son conseiller à la sécurité nationale. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La décision du président nigérian fait suite à des appels persistants des organisations de la société civile pour que l'architecture de la sécurité soit remaniée pour permettre une bonne gestion de l'appareil sécuritaire du pays. Isioma Izoura est activiste.
I expected it. I thought, okay, that's the right thing to do.
Je m'y attendais. Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire, car la situation sécuritaire au Nigeria n'est évidemment pas bonne. Donc si un président prend ses fonctions, cela devrait être sa priorité. Et je pense que c'est la bonne chose à faire, de commencer avec de nouvelles personnes en qui il a confiance et connaît leurs compétences.
Le président Bola Tinubu a promis de défendre la nation contre la terreur et toutes les formes de criminalité qui menacent la paix et la stabilité du pays le plus peuplé d'Afrique. Mais pour lutter efficacement contre cette menace, il a décidé de réformer le secteur de sécurité et son architecture.
Our new president.
Notre nouveau président a le droit de faire des changements. Donc, quand il veut faire des changements, il n'y a pas de questions à poser. Mais les deux parties doivent travailler ensemble pour atteindre un objectif. Ce sera mieux ainsi.
Nous attendons cela depuis un moment. Nous en avons assez avec ces multiples tueries. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très heureux. Et nous prions pour que les changements se produisent maintenant.
Entre mai 2015 et mai 2023, plus de 55 000 Nigériens ont été tués, soit par des terroristes, des bandits ou des groupes armés, sous l'administration de l'ancien président Muhammadu Buhari. Daniel Apang est analyste.
Tout le monde s'attendait aux mesures qu'il a prises. Nous attendons à ce que ces nouveaux chefs de l'armée travaillent sans relâche et mettent en place un dispositif de sécurité. Nous attendons à ce que la situation sécuritaire revienne à la normale. Et cela va faciliter, comme nous le savons, la libre circulation des personnes qui se traduira, enfin, de compte par un meilleur niveau de vie pour chacun.
Certains estiment que les menaces à la sécurité dans la plus grande économie d'Afrique sont principalement dues à des ressources limitées qui laissent les forces de sécurité nigériennes souvent impuissantes face aux assaillants qui ont multiplié les attaques sur plusieurs fronts ces dernières années. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, l'Elite Soccer Youth Development Academy a organisé le week-end dernier à Burdensville, dans le Maryland, sa journée annuelle de divertissement pour les amis et la famille. Un moment de fraternité autour du football avec parmi les invités Arzuma Compaoré de la VOA. Voici son reportage.
L'énergie était palpable et l'anticipation à son paroxysme. Les étudiants des IDA sont entrés sur le terrain, mettant en évidence leur engagement pour le sport au roi dans chaque dribble et chaque passe. Leur passion pour le jeu était visible, créant une atmosphère pleine d'énergie et d'excitation. Emmanuel Waliyo est membre des IDA.
J'adore le football. Quand je joue, les gens m'encouragent et cela me permet de gagner des trophées.
Emmanuel, 7 ans, est l'un des nombreux élèves des IDA qui partagent ce sentiment. Mais l'objectif de cette académie va au-delà des trophées et des buts. C'est une plateforme pour inculquer la discipline, créer des amitiés durables et favoriser une ouverture d'esprit qui transcende le terrain de jeu. Joël Waliyo est le père d'Emmanuel.
On va dans le même sens que les coachs, que les organisateurs ici. Pas de violence, le fair play. C'est des manières que nous voulons aussi bien réjaillir nécessairement sur leur futur pour que nous puissions avoir une société beaucoup plus solidaire où la sécurité, nous vivre ensemble, tout ça va prospérer.
Tous mes enfants, y compris mes jumeaux, Peter et Paul, sont obsédés par le football. L'un aime Ronaldo, l'autre aime Messi. Cela les rend heureux et les occupe. Lorsqu'ils rentrent de l'école, ils ont peu de temps, ils font leurs devoirs et ils savent qu'ensuite, ils iront à l'entraînement.
Francis Adesalou, parent d'élève des IDA, apprécie l'atmosphère familiale favorisée par Ezida et son fondateur, Coach Fofo. Immigré du Togo, Coach Fofo a créé l'académie il y a 20 ans dans un climat de scepticisme et de critique. Cependant, son expérience de footballeur professionnel et son engagement inébranlable en faveur du développement des jeunes lui ont permis de convaincre la communauté au fil du temps.
Le ballon a changé ma vie, le ballon a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc pour moi, j'ai voulu transmettre ça à la génération future. On peut jouer le ballon et ne pas gagner des millions, mais il y a quelque chose en toi qui fait une grande différence, que tu peux donner, que tu peux changer toute une nation ou toute une communauté à travers le football. C'est ça, c'est ce que j'ai en moi, c'est ce partage, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le bien-être des autres avant moi et que le football m'a donné. Et quand tu mets tout ça ensemble, c'est quelque chose de formidable. Yeah.
Alors que les États-Unis attendent avec impatience la Coupe du Monde 2026 qu'elle va organiser, Ezida continue de former les futures stars du football, incarnant la conviction que le sport n'est pas seulement une question de compétition, mais aussi d'épanouissement personnel et de renforcement de la communauté. Une philosophie qui s'aligne sur la récente initiative de la Fédération américaine de football visant à investir dans le football communautaire, en particulier dans les zones mal desservies.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal, avec à la mise en onde l'homme au doigté magique Georges Léonard Sagno. Au micro, Mouamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Plus d'informations 24h sur 24 sur notre site web dewaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur V.